Nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens. Une des épîtres majeures dans le Nouveau Testament avec l'épître aux Romains, puisqu'elle s'adresse à une grande capitale. C'est une épître stratégique. Et au chapitre 4 de cette remarquable lettre, je lis pour nous tous les versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc, voyez, encore un de ces donc, et qui vient de ce que l'Épître aux Éphésiens a une structure assez semblable à l'Épître aux Romains, une première partie doctrinale, et aussitôt après, un gros bloc tout à fait pratique, et là on entre dans la pratique de la doctrine. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et c'est un grand thème, la marche, à partir de là. Ce mot revient, il jalonne la suite du texte jusqu'au début du chapitre 6. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, et sous-entendu qui marchent en rond. Ils font du surplace, c'est le terme qui a donné le mot péripatéticien, pas un terme très agréable, mais qui s'appliquait jadis aux élèves des grands philosophes qui circulaient en cercle avec leur maître tout en recevant l'enseignement sur la base de questions et de réponses. Alors ici, c'est... ça signifie qu'on marche en cercle, n'est-ce pas? Ils marchent en cercle, sans progresser, selon la vanité de leur pensée. Selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement, aux mœurs licencieuses, à la débauche, pourrions-nous traduire, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Rappelez-vous, Romains 12, 2, hein, vous avez la même expression ici. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Après tout ce que nous avons déjà partagé dans nos trois premières études, je pense que vous saisissez mieux la densité des propos de l'apôtre Paul centrés sur la pensée. Pensée des païens, tout d'abord, Et puis ensuite, insistance sur le fait que quelque chose s'est passé, qui s'est traduit par le début d'un renouvellement de la pensée qui doit devenir quelque chose de permanent et ensuite se traduire sur le terrain, dans l'attitude concrète. C'est alors, à partir du verset 25, cet aspect qui est développé, renoncez au mensonge ou débarrassez-vous du mensonge, c'est très très fort dans le texte, débarrassez-vous du mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On demandait un jour au célèbre inventeur américain Edison, qui a alors une multitude de découvertes à son actif dans toutes sortes de domaines et au sein parfois d'épreuves incroyables qui ont réduit à néant des temps incroyables aussi de labeur pour aboutir à ces découvertes. Et on lui a demandé à ce célèbre inventeur Edison s'il croyait être capable de mettre au point une machine permettant à l'homme de lire les pensées secrètes de ses semblables. Et Edison, de répondre aussitôt, « Même si je pouvais construire une telle machine, je me garderais bien de la mettre en circulation. » Car si nous pouvions lire les pensées des uns et des autres, notre vie sur la terre ne serait plus supportable. Nous nous enfuirions vers les rochers et les montagnes en criant, tombez sur nous et cachez nos pensées secrètes à tous les hommes. Quelle lucidité! Je ne sais si certains d'entre vous ont lu ce livre d'une fiction à vous glacer le sang. Ce livre qui s'intitule 1984. On a dépassé 1984. Mais George Orwell était prophète en la matière, puisque son livre a été écrit bien avant. George Orwell est décédé en 1950. Et il faut le lire, ce livre. Même s'il est désagréable à lire. Je vous en livre un petit extrait. Sur tous les murs, une affiche en couleur, une tête énorme dont les yeux semblent vous suivre. Sous le portrait, une légende. Big Brother vous regarde. C'est vrai, il sait heure par heure ce que vous faites, dites ou pensez. Dedans, dehors, partout, des télécrans du parti vous observent. Gare à qui n'est pas conforme aux critères. On le désintègre. Au ministère de la vérité, des employés comme Winston Smith truquent les archives au rythme des événements. Imposture colossale dont le dégoût entraîne Winston à vouloir écrire un récit véridique. Son journal. Sa plume malhabile trace machinalement « Abba, Big Brother ». Crime suprême, qu'il écrivit ou n'écrivit pas « Abba, Big Brother » n'avait pas d'importance. Qu'il continuât ou arrêtât le journal n'avait pas d'importance. De toute façon, la police de la pensée ne le raterait pas. Il avait perpétré et aurait perpétré, même s'il n'avait jamais posé la plume sur le papier, le crime fondamental qui contenait tous les autres crimes par la pensée, disait-on. Le crime par la pensée n'était pas de ceux que l'on peut éternellement dissimuler. On pouvait ruser avec le succès pendant un certain temps, même pendant des années, mais tôt ou tard, c'était forcé, il vous avait. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient invariablement lieu la nuit. Il y avait le brusque sursaut du réveil, la main rude qui secoue l'épaule, les lumières qui éblouissent, le cercle des visages durs autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de déclaration d'arrestation. Des gens disparaissaient simplement, toujours pendant la nuit. Leur nom était supprimé des registres. Tout souvenir de leurs actes était effacé. Leur existence était niée puis oubliée. Ils étaient abolis. Rendu au néant, vaporisé, comme on disait. Tout cela par la police de la pensée. Il valait la peine de démarrer cette quatrième étape dans notre parcours sur la pensée par ces deux illustrations. Parce que la Bible nous dit, dans ce testament spirituel de David, dans sa 71e année, il sait qu'il va très bientôt quitter cette terre et il dit des choses tellement importantes dans 1 Chronique 28 et 29 et dans 1 Chronique 28 au verset 9 en particulier, il dit ceci: l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dans Actes 15, 8, Dieu est présenté littéralement en un mot comme le connaisseur des cœurs. Et là encore, le terme connaître n'est pas un terme léger, c'est un terme qui va en profondeur, qui indique la pénétration. Et il y a un regard de Dieu qui pénètre à perfection, jusque dans son ultime profondeur, la pensée de l'homme et son cœur. Dieu connaît les secrets du cœur, dit le psaume 44 au verset 22. Et David, déjà évoqué, dira de manière si claire: Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, 1, 2 et 4, et le psalmiste termine avec cette prière: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Comme s'il voulait dire: « De mon côté, Seigneur, parce que je sais que de toute manière, tu me lis intégralement au niveau même de mes pensées, je ne veux rien te cacher. » Parce que notre problème est là, n'est-ce pas ? C'est que tout en sachant intellectuellement que Dieu sait tout, qu'il connaît tout, qu'il voit tout, néanmoins, dans nos moments de recul spirituel, de désobéissance, de péché, nous croyons que nous avons la capacité de lui dissimuler des choses. C'est-à-dire que nous le réduisons à nos propres dimensions humaines. Nous y reviendrons certainement d'ici vendredi matin. Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Ou encore, toujours sur les lèvres de Jésus, qui vient d'être retourné avec vivacité par Simon-Pierre sur le chemin, parce qu'il a osé annoncer qu'il allait au-devant des souffrances et d'une mort terrible sur la croix à Jérusalem. Et Simon-Pierre le dissuade, mais jamais il n'est question que cela ne t'arrive, n'est-ce pas? Et Jésus, alors, de lui dire: tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et dans ce moment-là, avec force, il souligne que Simon-Pierre, subitement, s'est placé sous l'autorité de la puissance des ténèbres pour dire de telles choses. Au jour du jugement dernier, Dieu jugera par Jésus-Christ littéralement les secrets des hommes. Romains 2, 16. Le mot grec a donné littéralement, en français, le mot crypte. Il jugera les cryptes des hommes. Il ne s'arrêtera pas aux apparences extérieures, aux œuvres de parade, religieuses et profanes, faites pour être vues et admirées. Ce sont les sentiments intérieurs, les motivations profondes, les pensées secrètes, ces actes cachés du cœur et de la vie, comme l'écrit quelqu'un, qui sont les vrais, le vrai critère du caractère qui seront mis en lumière et jugés par Jésus-Christ. Mes amis, quand nous disons cela, nous nous rendons compte combien nous sommes en opposition percutante avec tout ce développement du culte de l'image. L'image que l'on donne. Vous savez combien toute notre société, dans tous les domaines, dans la publicité, dans la politique, en vue des élections, mais dans quantité de domaines, tout tourne autour de l'image. L'essentiel, c'est l'image que je présente. Peu importe la réalité répugnante qui peut se cacher derrière l'image. Nous avions, en introduction à une de nos études, lu Ésaïe 55, versets 6 à 9, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce qui signifie, et c'est là que nous voulions arriver, ce qui signifie l'importance primordiale, prioritaire, fondamentale, incontournable de ce que Dieu, dans le langage des Écritures, appelle la repentance. La repentance. Dieu annonce, lisions-nous ce matin, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, 30, 31, vous avez remarqué comment, hier soir, et ce matin déjà, en introduction, nous avons régulièrement lu des passages qui traitent du message de la repentance sur les lèvres de Jean-Baptiste, comme sur les lèvres du Seigneur Jésus, qui commence son ministère immédiatement en parlant de la nécessité de la repentance. Jean-Baptiste au désert, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, 2, et tous, sans exception même, les pharisiens dévots, sont inclus dans cet ordre. Pourquoi parler ici de repentance? Tout simplement à cause du sens de ce mot. Nous l'avons dit, nous passerions du temps dans la première partie de notre enseignement à donner la signification des mots. Et il existe une école de pensée dans le monde évangélique qui, voulant mettre la Bible à la portée de tout un chacun, a voulu supprimer un certain nombre de termes qui apparaissent à première lecture très hermétiques, et les remplacer par des termes que tout un chacun puisse mieux comprendre. Et hélas, on a parfois poussé le bouchon trop loin, notamment avec ce terme « repentance » qui sera rendu dans certaines versions par l'expression « changement de vie ». Et malgré toute mon amitié pour certains de ces traducteurs, j'en connais, je dois leur dire non. Je dois leur dire non parce que l'alcoolique qui, pendant des années, a détruit sa vie de famille, qui a rendu sa femme malheureuse, ses enfants complètement mis sans dessous, peut-être avec des conséquences pour toute la durée de leur vie, qui a peut-être perdu son emploi, qui a bu l'argent qui servait à alimenter le foyer, etc. Un jour, il signe un engagement d'abstinence. Que ce soit dans une association d'aide aux alcooliques d'inspiration religieuse ou totalement anonyme et sans étiquette. Et voilà donc qu'il s'arrête de boire. Il retrouve un emploi. Sa femme découvre un homme nouveau. Ses enfants sont bouleversés. On mange et on boit autre chose à la maison maintenant. La paix retrouvée. Il a changé de vie. Est-ce qu'il est passé par la repentance pour autant? Est-ce qu'il est né de nouveau pour autant? Vous voyez la différence? Et c'est, je crois, dans la stratégie de la puissance des ténèbres, dans les temps qui nous occupent aujourd'hui, une réussite de l'ennemi, que d'avoir subtilisé ce terme « repentance » pour le transformer en un mot qui a, ou en une expression qui a beaucoup moins de valeur. Et vous allez voir l'importance de ce terme maintenant. Vous vous souvenez dans Romains 12, au verset 2, de ce petit mot « nous » que je vous ai traduit de diverses manières suivant les versions que l'on utilisait. L'intelligence, la mentalité, les pensées, le comportement. Un terme très riche qui tourne justement continuellement autour de la pensée. Eh bien, c'est ce terme que nous avons retrouvé dans plusieurs de nos lectures au fil de nos entretiens qui est au cœur de ce petit mot grec. Nous sommes au cœur de notre sujet. La métanoïa. Méta, un préfixe en grec, qui indique systématiquement qu'il y a un changement. Métamorphose, nous l'avons vu. Ici, métanoïa, c'est-à-dire un changement, méta, du nous. Un changement de la mentalité. Un changement dans le domaine de l'intelligence. Un changement dans le domaine de la pensée. Un changement absolument radical. Changez votre nous radicalement, dit Jean-Baptiste. Changez votre nous, changez vos pensées radicalement, dit Jésus. Toutes vos pensées, vos sentiments, votre volonté, votre échelle de valeur, votre attitude intérieure, votre centre de gravité, le centre même de votre personnalité, votre cœur. Tout cela se tient, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Changez. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous appelons très librement un changement de vie. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que si ce terme « métanoïa » est le terme le plus utilisé dans le Nouveau Testament, près d'une soixantaine de fois, si mes souvenirs sont exacts, il est parfois associé, ou on voit dans les textes du Nouveau Testament, deux autres termes qui vont avec lui. C'est-à-dire que Dieu a conduit les rédacteurs inspirés du Nouveau Testament à utiliser trois mots pour évoquer ce processus de changement profond, radical, qui doit partir du domaine de la pensée. Vous avez un mot qui n'est utilisé à ma connaissance que deux fois, si mes souvenirs sont exacts, dans le Nouveau Testament. Il est par exemple utilisé dans la parabole des deux fils. Vous savez, le père qui dit à l'un de ses fils « va travailler dans ma vigne », le fils dit non. Et puis il est dit que le fils se repent et qu'il y va. Alors que l'autre fait la démarche inverse, dit oui et n'y va pas. Eh bien, pour le premier des deux fils, quand il est dit qu'il se repentit et alla, c'est, on peut le traduire, il le regretta et alla. C'est un autre terme qui montre que dans le programme de la repentance, dans ce changement de pensée, dans ce changement cérébral, n'est-ce pas ? Il y a une dimension du cœur qui appartient au domaine affectif, qui se traduit par le regret. Tôt ou tard, une authentique repentance se traduit par un regret profond à cause de tous les crimes de lèse-majesté que nous avons commis dans notre vie. Et puis, vous avez un autre terme, le troisième, que nous connaissons bien, que nous utilisons dans notre langage courant, c'est le terme conversion. C'est un terme qui figure dans le texte grec avec son préfixe, qui est un terme assez particulier, et qui vraiment évoque une conversion, un retournement, un changement de direction, mais qui généralement souligne que lorsque je regrette mon péché au niveau de mes pensées, lorsque je change totalement, radicalement d'attitude dans le domaine de mes pensées, de ma volonté, de mon cœur, eh bien, cela va se traduire par des demi-tours dans ma vie, dans toutes sortes de domaines de ma vie quotidienne. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma tête doit se traduire visiblement dans mon quotidien. Il faut que ceux qui sont autour de moi le voient, et c'est pour cela que Jean-Baptiste disait aux pharisiens notamment, et si on ne voit pas chez vous le fruit digne de la repentance, vous pouvez raconter n'importe quoi, vous pouvez vous faire baptiser par moi des dizaines de fois, ça ne changera rien, vous serez jugés et vous vivrez l'éternité loin de Dieu. Regret, de l'autre côté, conversion, changement complet dans nos comportements, dans notre langage, dans notre regard, dans l'usage de nos oreilles, de nos mains, de nos pieds, n'est-ce pas, de tous nos membres. Mais tout cela centré sur ce noyau dur du changement de notre mentalité. La repentance implique un véritable changement de mentalité. Je l'écris ici dans mon propre document, la vraie repentance inaugure une nouvelle manière de penser et de se comporter. Le verbe grec utilisé ici indique un changement total, radical, d'attitude intérieure, une conversion décisive de la mentalité, de la pensée, avec ses répercussions profondes sur la personne tout entière. Se repentir, c'est prendre la décision de changer radicalement de direction et d'objectif. Je sors des ornières profondes et sinueuses creusées par mes mauvaises habitudes de pensée qui me conduisent tout droit vers l'enfer éternel, et je commence à marcher avec le Seigneur Jésus dans la direction opposée, celle du ciel, sur un chemin tout neuf et tout droit, solidement pavé de sainteté, de justice et d'amour. Vous savez, il y a des termes dans les Écritures qui sont irremplaçables. Simplement, c'est notre rôle dans l'évangélisation, comme c'est notre rôle dans l'église locale, dans nos relations les uns avec les autres, de les expliquer. Vous savez, moi je suis très frappé de voir combien les gens les plus simples peuvent avoir des mots très compliqués sur les lèvres quand ils parlent de leur santé. C'est incroyable. Alors il y a quelques dérapages, les infarctus deviennent des infractus, etc. Mais c'est incroyable ce que les gens deviennent apparemment intelligents, connaisseurs, lorsqu'ils évoquent leurs IRM, leurs radios, leurs scanners, les médicaments qu'ils prennent. Moi, voyez-vous, bon, je ne m'y connais pas grand-chose en médecine, mais je sais que ma tumeur s'appelle un phéochromocytome. Je sais que la première fois que le spécialiste m'a dit, vous savez, on vient de détecter un phéochromocytome, je l'ai regardé avec des grands yeux, je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Il était d'ailleurs bien embarrassé parce que ça fait partie des tumeurs les plus rares qui, à cause de cela, posent beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas comment elles se forment et on ne sait pas très bien les suites qui peuvent avoir lieu. C'est leur côté dangereux. Phéochromocytome, vous vous rendez compte si je suis intelligent? Alors personne ne conteste que les gens autour de nous, dans bien des domaines, utilisent un langage qui soit un peu compliqué. Et simplement quand ils utilisent certains termes, si vous êtes suffisamment honnête et humble, vous les regardez, vous dites, écoutez, excusez-moi, je ne comprends pas. Et vous avez droit à un quart d'heure d'enseignement sur leur souffrance. Et après ça, vous êtes fixé. Alors, il y a comme cela dans les Écritures, de ces termes d'une richesse telle qu'il est important de les expliquer. les expliquer simplement. Et tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes se sont convertis à Jésus-Christ, même avec des termes qui étaient en soi peu compliqués. Ça n'a jamais empêché des hommes et des femmes de se convertir à Jésus-Christ. Mais vous voyez, ce soir, dans le cadre de notre série, l'importance de la repentance. C'est Charles Finet qui écrit ceci, « La repentance n'est pas le remords d'avoir fait une chose, car alors l'enfer serait peuplé de repentants. » Elle est un changement de sentiment à l'égard de Dieu et du péché. Ce n'est pas seulement un changement de vue, mais un changement dans la préférence ou dans le choix définitif de l'âme. Un homme a changé d'orientation politique et chacun comprend qu'il y a eu un changement dans ses vues, dans ses sentiments et dans sa conduite. Pour lui, c'est une repentance. La repentance évangélique est un changement de volonté, de sentiment et de vie par rapport à Dieu. Et j'aime ici cette formule que j'ai bien volontiers retenue, qui est totalitaire, percutante, d'un de mes anciens professeurs de théologie à Emmaüs, Luc de Benoît, ce cher frère, qui, soulignant le caractère radical d'une vraie repentance, écrivait ceci et disait ceci, c'est une repentance de la vie, du cœur de la vie, de toute la vie et pour toute la vie. Mes amis, ça vaut la peine de peser ça, n'est-ce pas? Une repentance de la vie, du cœur de la vie, de toute la vie et pour toute la vie. Et quelqu'un, Confucius, tiens, a dit ceci, celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Alors moi, je ne vous connais pas tous au loin de là. Mais il se peut que ce soir, Dieu dise à quelqu'un d'entre nous, repends-toi, repends-toi. Surtout, après avoir entendu la succession de notre enseignement jusqu'à maintenant, nous comprenons la solennité de cet appel. Et voyez-vous, c'est un thème dans les Écritures qui est d'une telle importance qu'il est attaqué de toutes parts, notamment dans notre littérature évangélique. Et je suis frappé de voir sa disparition progressive de livres considérés par ailleurs comme excellents. Je me souviens à une époque, évoquant à partir de l'épître de Paul aux Colossiens le problème des déviations doctrinales et éthiques dans l'Église, avoir simplement fait une expérience pour montrer combien l'épître aux Colossiens était actuelle, combien elle visait ce qui est dans nos livres. Et j'ai pris simplement un livre qui était alors un best-seller mondial, dont l'auteur a ensuite écrit 3 ou 4 autres ouvrages, de la prison à la louange. Livre intéressant, mais truffé d'erreurs doctrinales, dont certaines très graves, et qui en particulier, alors que son auteur a eu des pratiques occultes qui transparaissent fortement de ce livre, ne parle jamais de la nécessité de la repentance et de sa propre repentance. Et je peux vous dire que ce livre, qui en apparence a fait du bien, a aussi fait beaucoup de dégâts. Mais, et je ne vais pas entrer dans les détails, je pense à un livre au sujet duquel on fait beaucoup de tapage depuis quelque temps, et je le regrette beaucoup. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la littérature évangélique de langue française actuellement. Et je le dis parce que je me sens très concerné par ce que j'écris, et parce qu'à cause de ça, je suis en relation avec des maisons d'édition. Et que je les interroge, et que je les interpelle. Rick Warren. Ça vous dit quelque chose, Rick Warren? Ce programme de 40 jours, séminaire tournant autour d'un livre qui a changé de titre entre-temps, je crois que c'est une vie motivée par l'essentiel maintenant. Ou, dans un premier temps, à première lecture, lecture très rapide pour en avoir une idée, j'ai été enthousiasmé par le contenu d'un certain nombre de chapitres remarquables, c'est vrai. Ce qui m'a conduit à dire à certains qui sortaient de leur gomme, parce que ce livre a fini par diviser des églises, et des églises que je connais. Ce qui m'a conduit à finir par dire, écoutez, faisons tout de même attention de ne pas diaboliser la totalité de l'ouvrage et de son auteur sous prétexte que... Mais ceci dit, il est absolument inacceptable que la publicité qui est continuellement renouvelée sur ce livre le présente, de manière très américaine d'ailleurs, comme un livre. Mais mes amis, il a bientôt plus de valeur que les Écritures. Si on présentait les Écritures avec la même admiration qu'on présente actuellement ce livre, mes amis, combien j'en serais reconnaissant. Pas un brin de réflexion destinée à obliger le lecteur à se poser des questions durant la lecture de ce livre. Alors il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps à examiner ce livre sous toutes ses coutures, à aller voir bon nombre des 700 au moins, voire plus, citations bibliques exprimé dans 4 versions, plus une trentaine en traduction libre personnelle, donc par le travail propre de l'auteur sur les textes originaux. Mes amis. Oh, à nouveau, certains chapitres sont remarquables. Mais une chose m'a troublé. Parce que c'est un livre qui est censé parler de l'essentiel. Et vous savez, pour faire le tour de l'essentiel, Bible en main, c'est déjà difficile. Mais quand dans un livre qui est centré sur l'essentiel, la repentance n'apparaît pas, ou à peine, je me pose des questions. Parce que c'est fondamental, nous le voyons, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je ne le dis que maintenant. C'est trop fondamental pour qu'on se permette de passer outre, au point que dans ce livre, on ne sait pas toujours faire la distinction entre qui est à Jésus-Christ et qui ne l'est pas. Il y a un flou permanent qui fait que souvent on se dit, mais à qui s'adresse-t-il? La personne est-elle à Jésus-Christ ou n'est-elle pas à Jésus-Christ? Je pourrais évoquer d'autres aspects. Je ne veux pas passer du temps à cela ici. Mais je vous donne simplement un indice sur lequel j'ai fait des tests. Cet indice figure dans les toutes premières pages du livre. Et cet indice évoque la justification par l'auteur de l'usage du nombre 40. Qui ordonne la structure du livre et qui est repris dans la stratégie des séminaires. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un véritable nombre fétiche dans lequel on a essayé d'intégrer des justifications bibliques qui n'en sont pas. Comment a-t-on procédé? L'auteur, dans sa lecture des Écritures, a vu que, dans un certain nombre de passages, ce nombre, 40, était utilisé. Il a vu que, dans le contexte de l'usage de ce nombre 40, il se passait des choses. Et il en a fait une déduction générale, avec 8 exemples à l'appui, donnés simplement l'un après l'autre. Ces 8 exemples montrent que là où 40 est indiqué, Dieu a produit une transformation, un changement dans la vie d'un certain nombre de personnes. Soit le peuple d'Israël, soit tel personnage du peuple, soit même le Seigneur Jésus, etc. N'est-ce pas? Alors, j'ai lu ces 8 affirmations. Eh bien, écoutez, je vais vous dire simplement ceci. C'est que 7 des affirmations sont fausses. Et il n'y a pas besoin d'être théologien, mais un minimum de connaissance biblique, de connaissance du contexte, l'indique. Alors j'ai fait le test. J'ai fait le test avec un ancien responsable d'église, docteur en médecine, qui a de longues années de ministère, un de mes amis que j'ai vu pratiquement à peu de choses près se convertir. Je lui ai dit, écoute, je vais te lire 8 affirmations. Et je te demande simplement de me dire si tu es d'accord ou non avec les 8 affirmations suivantes. Il est arrivé au même résultat que moi. Et je continue à faire ce test. Or, ce texte introduit toute la suite de l'enseignement du livre. Alors, simplement, je ne veux pas en vous détruire des bonheurs, mais simplement nous rappeler que la Bible seule est véritablement inspirée de Dieu, n'est-ce pas ? Et que malheur à l'Église quand elle commence à vouloir tout fonder sur des livres au lieu de fonder sur la parole de Dieu. Et actuellement, c'est un problème. Mais je voulais simplement illustrer, voyez, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la littérature, la manière dont on peut évincer un thème aussi important que la repentance dans un livre qui est un best-seller mondial pour l'Église d'aujourd'hui. Mes amis, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et c'est notre connaissance personnelle du Dieu des Écritures et des Écritures de Dieu qui va nous donner le discernement pour éviter de tomber dans certains pièges. Voilà, je ferme ici la repentance. J'ai sous les yeux cette citation de Martin Luther qui disait il avait l'art d'être très percutant. Il a d'ailleurs été un révolutionnaire de la langue allemande et au point que sa traduction en allemand de la Bible a encore une valeur remarquable aujourd'hui, bien que la langue ait beaucoup évolué. Il avait une telle richesse dans ce d'images et d'aspects percutants dans ses traductions et aussi dans son enseignement que c'est parfois tellement délicieux à lire. Il dit ceci, 3 conversions sont nécessaires. La conversion du cœur, on en a parlé, celle de la pensée, c'est intéressant, lui aussi il est imprégné des Écritures. Il parle du cœur, il parle de la pensée. Et puis comme c'était un homme éminemment pratique, y compris dans sa vie conjugale et familiale, il ajoute, et celle du porte-monnaie. Conversion du cœur, de la pensée, celle du porte-monnaie, parce que souvent on risque de donner tellement de place à notre porte-monnaie que le cœur devient un porte-monnaie. Alors j'en viens, et nous allons devoir terminer avec cela parce que le temps passe terriblement vite, j'en viens à un dernier texte qui permettra de clore avec cette première partie. C'est ce passage du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Et dans les versets 25 à 27, où Ézéchiel, contemporain de Daniel, qui est né peut-être dans la même année que Daniel, il y avait 2 petits berceaux qui reposaient dans la proximité de la cour de Jérusalem. Dans un de ces berceaux, il y avait Daniel, dans l'autre, il y avait Ézéchiel. Et parce que le roi Josias a accepté de se laisser interpeller par la parole de Dieu, sans doute par le rouleau du Deutéronome, il y a eu des conséquences extraordinaires avec toute une équipe autour de ce roi Josias, le prophète Jérémie, un des grands conseillers spirituels certainement de Daniel et d'autres. Et tout cela a beaucoup marqué Daniel et Ézéchiel, dans leur petite enfance, dans leur préadolescence, et c'est ce qui leur a permis de tenir le coup lors de ces déportations, la première pour Daniel, la deuxième pour Ézéchiel, où ils ont été transplantés, déracinés, et on imagine ce que cela pouvait être depuis leur chère Jérusalem jusque dans cette capitale immense de l'Empire babylonien, la Grande Babylone. Ézéchiel, donc, dans ses versets 25 à 27 du chapitre 36, écrit ceci. je répandrai sur vous, il s'agit de la maison d'Israël, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Description en termes saisissants de la véritable transplantation cardiaque qui correspond à une authentique repentance absolument impossible sans l'action toute puissante du Saint-Esprit. Et je relève dans un remarquable ouvrage, sans doute un de ceux qui sera présenté d'ici vendredi par Philippe Keller, ce fameux berger, qui dans un de ses livres écrit ceci: « Mon âme doit être purifiée. Les débris et déchets de 1000 pensées et imaginations mauvaises doivent être balayés de ma vie. Ce sont mes péchés, mes iniquités qui se sont interposés entre Dieu et moi. Où est la solution ? Je pense à Hercule, à qui l'on attribua la tâche impossible de nettoyer les gigantesques écuries d'Augias. Des milliers de chevaux avaient déposé leurs crottins à l'intérieur. L'endroit était finalement envahi par une véritable montagne de fumier. Hercule savait très bien que, malgré toute sa force, il ne pourrait jamais enlever ces tas de saletés. Il est donc allé dans les montagnes et y trouva un torrent impétueux. Il en détourna le cours, en fit couler les eaux claires au travers des immenses écuries. En peu de temps, ce fort courant balaya tout le crottin. Les écuries étaient enfin propres grâce à l'eau scintillante descendue des hauteurs. C'est une image parfaite de l'œuvre merveilleuse que l'Esprit de Dieu peut accomplir dans la vie d'un chrétien. C'est à condition seulement que je le laisse entrer dans les pièces et les galeries de ma vie intérieure, que celles-ci pourront être purifiées de toutes les mauvaises pensées, des imaginations perverses, des sentiments de colère et des décisions néfastes qui font partie de mon caractère. Et j'ai été séduit par Dieu aussi au travers de cette expression « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous avez remarqué combien, dans la fragilité actuelle de l'homme, pourtant, son cœur, loin de Dieu, est un cœur de pierre. Quelle dureté! Et j'ai ici sélectionné cette parole de C.S. Lewis, tellement belle et vraie, et qui colle avec ce texte. Écoutez ceci. Aimer, c'est être vulnérable. Qui que vous aimiez, votre cœur sera certainement déchiré et probablement brisé. Si vous voulez être sûr de conserver votre cœur intact, ne le donnez à personne, pas même à un animal. Emballez-le soigneusement dans des hobbies et des petits luxes. Évitez-lui toute attache. Enfermez-le en sécurité dans le cercueil de votre égoïsme. On y est tellement en sécurité. Pas de lumière, pas de mouvement, pas d'air. Là, au moins, votre cœur ne court pas le risque d'être brisé. Il deviendra même incassable, irrécupérable. Le choix est entre la tragédie, ou au moins le risque de tragédie, et la damnation. Le seul endroit en dehors du ciel où l'on est à l'abri des dangers et des perturbations que suscite l'amour, c'est l'enfer. Aussi, nous approcherons-nous de Dieu, non pas en essayant d'éviter les souffrances inhérentes à toute forme d'amour, mais en acceptant ses tourments, en les offrant en retour à Dieu après avoir jeté bas toute armure protectrice. Puisque nos cœurs doivent être brisés, et puisque c'est Dieu qui choisit comment ils le seront, que sa volonté se réalise en nous. Je vous donnerai des cœurs de chair. Mais tout cela par le chemin de la repentance. Repentance initiale, celle qui ouvre la voie à ces effluves de la grâce de Dieu, de la générosité inouïe de Dieu. Mais ensuite, repentance répétée au fil des jours, au fil des heures, au fil des moments. Chaque fois que nous sommes pris en défaut sur la base des Écritures, nous allons vers l'autre pour demander pardon. Nous réalisons que tout péché est d'abord un crime de lèse-majesté. C'est tout d'abord Dieu le premier offensé. Là où nous pensons très souvent que ça se passe avec les choses et les êtres, la Bible nous dit non. Chaque péché est d'abord un crime de lèse-majesté. C'est lui qui est le premier offensé, mes bien-aimés. Et quand on le dit, on voit la croix qui se dresse à Golgotha. Et le Fils de Dieu qui prend mon péché sur lui, qui meurt pour que je ne sois pas condamné. Mais c'est à partir de la régénération que commence ce processus fantastique de renouvellement progressif, répétitif, permanent de l'intelligence, l'entendement, la mentalité, le mode de pensée, qui est rendu alors capable de comprendre, de discerner, d'apprécier, d'aimer la volonté de Dieu. Celle-ci est mise en œuvre au moyen de toutes les facultés et le résultat, c'est une métamorphose progressive de toute la personne. Alors, après-demain matin, nous allons, dans le même livre du prophète Ézéchiel, après avoir lu cette promesse extraordinaire, « Je vous donnerai un cœur nouveau », nous allons simplement nous rendre compte dans Ézéchiel 18, 31, qu'il est écrit « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». C'est-à-dire que Dieu donne, et c'est le paradoxe permanent des Écritures, tout nous est acquis à cause de Jésus-Christ. Nous en avons des promesses très claires dans les Écritures, mais tout doit être saisi jour après jour et pratiqué. Dieu dit « Je te donne un cœur nouveau » et au même moment, il me dit « Fais-toi un cœur nouveau ». C'est-à-dire, apprends maintenant à travailler, à collaborer avec moi, même si tout est grâce, tu es appelé à travailler avec moi. Dans ce domaine de la transformation des pensées, du renouvellement des pensées, de l'orientation des pensées. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser de très près durant les trois dernières études, notre responsabilité sur ce socle que nous avons longuement développé dans les quatre premières études. Nous devrons là aussi sélectionner la matière pour retenir seulement certains aspects pratiques, mais nous y serons encouragés et vous aurez aussi, si vous le souhaitez, je le dis d'emblée sans le développer, la possibilité de retrouver toute une partie de cet enseignement dans mon dernier livre, « Le découragement, un chemin pour en sortir ». C'est un livre qui contient deux parties parce qu'il était destiné à être publié en deux tomes, et puis finalement la Maison de la Bible a choisi de l'éditer en un seul tome à l'approche des fêtes de Noël, c'était un beau cadeau de Noël. Et dans toute la première partie, je crois quatre chapitres au moins, sont consacrés à ce thème tellement important de la pensée, tellement important d'ailleurs dans le domaine de la dépression spirituelle, dans le domaine de nos découragements, de nos épreuves, de nos circonstances, n'est-ce pas ? Alors vous retrouverez bien élaboré en quelque sorte bien des choses que nous avons partagées, mais bien sûr ici dans le cadre de ce cours, nous les avons adaptées, complétées, en tenant compte aussi bien de la Coupe du Monde, par exemple, et de tant d'autres aspects. Nous voulons simplement prier. Et Seigneur notre Dieu, nous nous sommes penchés avec ta grâce et ton secours sur un thème tellement important dans ta parole. Et nous avons pu toucher du doigt l'importance de la pensée, des pensées, du cœur dans le livre. Oh certes, Seigneur, nous n'avons pas forcément tout compris. Nous savons que tu vas continuer à nous éclairer, à travailler en nous, à éclairer notre intelligence pour mieux saisir, pour mieux vivre tout ce que cela signifie. Mais merci, merci pour tout ce que tu as voulu nous dire. Et je te prie, ce soir en particulier, pour cette question tellement importante de nos repentances, de cette repentance initiale qui s'inscrit dans ce programme extraordinaire de l'entrée dans le salut que tu donnes à cause de la croix. Et je te prie avec mes bien-aimés qui sont connus de toi, qui ont été empoignés par toi, sauvés par Christ, placés sous son autorité, sous sa seigneurie. Je te prie pour quiconque parmi nous ne serait pas passé par cette porte basse de la repentance, pour que tu œuvres. Merci de le faire. Nous croyons que tu le fais. Afin que, même dans le cadre de ce cours, peut-être dans le secret de notre chambre, dans le silence de la nuit, dans ces moments à l'écart, nous nous laissions vraiment interpeller par le Saint-Esprit et que nous plaidions coupables et que nous acceptions d'aimer ce que nous avons peut-être haï et de haïr ce que nous avons certainement aimé dans tant et tant de domaines. Ô Seigneur, réponds à notre prière. Et puis nous te prions les uns avec les autres et les uns pour les autres, à cause de cette nécessité d'une repentance permanente au fil des jours, au fil des heures et des moments, chaque fois que ton esprit nous signale que nous sommes en train de nous éloigner de toi, par notre dureté, par des pensées mauvaises que nous cultivons, par un comportement malsain. Seigneur, tu sais toutes choses. Et nous te demandons que, suite déjà à ces premières études, nous ayons à cœur, les uns et les autres, de nous repentir. Et c'est toi, tu le dis dans ta parole, dans le Nouveau Testament, c'est toi qui donne, qui fait cadeau de la repentance. Nous n'avons même aucun mérite, c'est toi qui crée en nous ces dispositions de cœur qui nous conduisent, qui nous poussent à la repentance. Alors Seigneur, fais-le pour que des problèmes soient réglés dans nos vies, dans nos relations conjugales, dans nos relations familiales, dans nos relations professionnelles, dans nos relations de voisinage. Seigneur, ici sur la colline, peut-être sur la montagne, dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur, donne-nous de savoir plaider coupable, demander pardon et changer par ta grâce de comportement en profondeur. Merci. Une fois de plus, de bien vouloir mettre ton sceau sur tout ce que nous avons partagé et de continuer inlassablement, comme tu sais si bien le faire, ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen.